Bonsoir à toutes et à tous. Du grain à moudre, c'est aussi tout l'été. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. S'ils gagnent la Coupe du Monde de football dimanche en Russie, les joueurs de l'équipe de France n'iront pas, comme en 98, à la Garden Party de l'Elysée. Et pour cause, le match a lieu un 15 juillet, puis de toute façon, il n'y a plus de Garden Party. Ce n'est pas la seule chose qui ait changé depuis la victoire des Bleus. Certes, de cette épopée reste un certain nombre de joueurs qui continuent leur carrière comme entraîneurs, à l'instar du sélectionneur Didier Deschamps, ou dans les médias. Il reste aussi un slogan, Black, Blanc, Beurre, et une image, celle du président Jacques Chirac accueillant Zidane, Thuram, Desailly, Lizarazu, Blanc, la France voulait alors se voir dans le miroir de son équipe nationale, multiculturelle. C'est en tout cas le récit qui a perduré quelque temps, faisant porter à ce sport la tâche de résorber la fameuse fracture sociale, là où les dirigeants politiques se révélaient impuissants. Alors forcément, 20 ans plus tard, les problèmes persistants, on se met à voir de nouveau le football comme la solution à bien des maux de la société. Mais la situation politique, économique, sociale et même footballistique a radicalement changé. Alors comment la France se rêve aujourd'hui à travers le football, c'est la question du grain à moudre d'été.
Bien. Une seconde. Je voudrais saluer au nom du gouvernement, en mon nom et au nom de toute l'équipe de France, tous les jeunes. Les 4000 jeunes qui viennent de la France entière. Qui viennent de la France entière, de métropole, des départements et des territoires d'outre-mer. Et je leur fais un cadeau, le plus beau cadeau qu'ils puissent rêver, l'équipe de France. L'équipe de France et la Coupe de France, la Coupe du Monde, pardon. La Coupe du Monde. Et en votre nom à tous, je voudrais leur dire notre admiration, notre reconnaissance et notre amitié. Ils sont la plus belle image que vous garderez de la France de cette année dans votre cœur.
L'image de la France en 98, je le disais, c'est cette France black, blanc, beurre. On va en discuter ce soir justement sur ce mythe de la France black, blanc, beurre et voir comment 20 ans après, on essaye de le réactiver peut-être de manière encore plus artificielle qu'à l'époque. Bonsoir Nathalie Yanetta.
Bonsoir Raphaël.
Vous êtes directrice associée de l'agence de communication 2017. Vous êtes surtout connue peut-être par nos auditeurs qui regardent le football comme journaliste sportive longtemps à Canal+, aujourd'hui sur LCI et TF1. On peut vous voir dans le magazine du Mondial.
Plus que deux jours.
Plus que deux jours pour vous, après la petite finale, j'imagine, demain, et après la finale dimanche. Et vous avez été aussi, pendant quelques temps, la conseillère sport et jeunesse du président de la République, François Hollande. En face de vous, dans ce studio, Bernard Chambaz, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes romancier, auteur récemment d'une petite philosophie du ballon, c'était chez Flammarion, publié cette année. Vous êtes un véritable passionné de sport, vos lecteurs le savent. Vous aviez d'ailleurs suivi et tenu chronique pendant toute une saison, suivi le club francilien du Red Star. C'était la saison, je crois, 2014-2015. Et vous êtes même membre de l'équipe de France. L'équipe de France des écrivains, évidemment, l'équipe de France de football des écrivains. Et à ce titre-là, bah, vous taquinez le ballon, comme on dit, régulièrement avec d'autres d'autres écrivains, voilà, tout simplement. Enfin, Paul Dietschy, qui est avec nous en duplex. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes, je crois, à Nice. Tout d'un coup, je ne le vois pas sur ma feuille. Vous êtes à Nice, c'est ça ?
Non, je suis à Besançon.
Vous êtes à Besançon en ce moment, c'est parfait. Et donc, je me permets de saluer les équipes de France Bleu Besançon. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Franche-Comté et vous êtes spécialiste de l'histoire du sport. Vous avez publié, vous, c'était en 2014, une histoire du football. On va s'appuyer sur vos connaissances, évidemment, de cette histoire. Alors, depuis la victoire contre la Belgique en demi-finale et même un peu avant, les comparaisons ont fleuri avec 98 et elles se sont faites même de plus en plus insistantes. Nathalie Yanetta, est-ce qu'on a raison de comparer l'équipe de France d'aujourd'hui? Parlons football d'abord, hein, avant de parler du phénomène.
Ah.
Parlons football. Est-ce qu'on a raison de comparer cette aventure, cette épopée de l'équipe de France 2018 avec celle de leurs aînés en 1998,
pardon. Un peu. pas complètement, mais un peu sur le terrain. Pour deux raisons. La première, c'est que la bande de 98, c'est une bande de copains qui s'est dit, c'est pour nous, c'est la nôtre, c'est notre moment. Et ils sont en train de se dire la même chose, c'est une vraie bande de copains. Et puis l'autre raison, elle est purement dans le profil de cette équipe qui est une équipe dont on s'est dit, oh mon Dieu, la défense, ça va pas le faire en fait au tout début de la compétition. Et en réalité, c'est une équipe de France ultra réaliste, très organisée, un peu comme celle de Zinedine Zidane et de Didier Deschamps à l'époque.
Paul Dietschy, je fais appel à l'historien, est-ce que vous aussi vous estimez qu'on a raison de... Je parle encore point de vue football, on parlera ensuite des situations du sport lui-même et de la situation politique de la France aujourd'hui, mais sur d'un point de vue purement sportif, est-ce que vous estimez qu'il y a ce parallèle et légitime entre 98 et 2018?
Oui, parce que l'équipe de France d'aujourd'hui, elle incarne finalement deux forces du football français. Sa formation, on le voit avec ses jeunes comme Mbappé, hein, et donc une formation capable de sortir régulièrement des pépites. Et puis en même temps, un football français qui est assez faible finalement sur le plan national, mais qui sait exporter ses talents. Et ces joueurs, comme ceux de 98, ils ont été chercher la culture de la victoire, l'expérience des grands matchs au Real Madrid, dans des clubs anglais. Et on oublie souvent cela. En 98, c'était quand même fortement la Juventus et d'autres clubs qui avaient aussi contribué à ce succès. C'est la même chose aujourd'hui. Et celui qui fait la synthèse, évidemment, c'est Didier Deschamps, hein, qui à la fois reprend l'enseignement d'Aimé Jacquet, et puis en même temps, lui a une expérience tout à fait extraordinaire sur le plan international.
Et à la Juventus de Turin, justement, saluée et chère au cœur de Nathalie Iannetta, le football italien, on en parlera peut-être, étant donné le niveau, vous l'avez dit, de la défense de l'équipe de France aujourd'hui. Mais je termine le tour de table avec vous, Bernard Chambaz, avec la même question sur ce parallèle sportif qui est fait aujourd'hui.
Oui, je crois que le parallèle il est assez évident. Déjà, c'est assez étrangement, il était annoncé depuis le départ. C'est-à-dire qu'il y a... Alors c'est toujours, on peut pas faire, c'est pas du déterminisme, hein, c'est toujours facile a posteriori, mais c'est vrai que depuis le début, on dit l'équipe de France peut gagner. Alors on le disait avec plus ou moins de confiance, et je pense pour ma part que ça a beaucoup joué sur les nombres, une espèce de magie des nombres, d'incantation magique, c'est 98-18. Voilà, 20 ans après, c'est pas Alexandre Dumas, mais ça y ressemble. Et moi, ce que je vois, c'est que Nathalie et Paul ont raison, enfin, il y a des points communs. Ce qui me frappe aussi, c'est que en 18, par rapport à 98, Nathalie disait à l'instant que c'est notre Coupe du Monde, on va la gagner. C'est à la fois plus difficile et plus naturel, en quelque sorte, de la gagner à Paris que d'aller la chercher à Moscou. Donc, ce qui fait déjà une différence. Après, par rapport aussi à cette remarque des joueurs français, tout à fait judicieuse, la remarque des joueurs français dans les clubs étrangers, ce qui est étrange, c'est que le joueur français qui marque le plus les esprits pendant cette Coupe du Monde est le seul, quasiment le seul joueur
qui n'était pas né
club.
En 98.
Non, puis qui joue en France, c'est-à-dire qui joue dans le championnat de Ligue 1, ce qui est un paradoxe supplémentaire. Après, si on voulait voir, si je devais retenir une image de ce parallèle du point de vue du jeu entre 98 et 18, c'est à mon sens, en plus, étrangement, le moment de bascule de cette Coupe du Monde, c'est-à-dire c'est le but de Pavard qui... À un moment où l'équipe de France est vraiment, pour la première fois, elle est mal, c'est-à-dire elle est menée et tout, et ça ressemble tellement au but de Thuram. Enfin, tout le monde a pensé tout de suite, à établir ce parallèle.
Le but de Benjamin Pavard, le latéral, donc défenseur latéral de l'équipe de France, qui a mis une frappe magnifique contre l'Argentine de l'extérieur de la surface de réparation. Lui qui avait mis peut-être deux buts dans sa carrière,
Mais on le compare Nathalie d'autant Iannetta. Plus qu'on vient de prendre un but marqué par l'Argentine, où il est coupable sur ce but, exactement comme Lilian Thuram est coupable sur le but de Davor Šuker face à la Croatie.
Donc mais le Thuram parallèle, met son but une minute après, donc voilà, oui. Ça fait quand même quelques différences. On va arrêter là au jeu des sept erreurs.
Et puis, eu égard avec l'affection et l'admiration que je porte à Lilian Thuram, le but de Benjamin Pavard est jusqu'ici le plus beau but de ce mondial.
Alors parlons un petit peu de l'autre image, comme je le disais, qui restait du Mondial de 98. C'était aussi présent dans l'extrait de Jacques Chirac qu'on a diffusé pour introduire cette émission, extrait de la Garden Party où Jacques Chirac présente l'équipe de France et dit c'est la plus belle image que vous pouvez garder, l'image de cette France qui vient de partout et donc cette fameuse France black, blanc, beurre. dont on sait aujourd'hui, Nathalie Iannetta, je ne gâche rien à la surprise en disant ça, que c'était largement un mythe.
Mais c'était un mensonge, c'est plus qu'un mythe, c'était un mensonge. C'est-à-dire que c'est comme si on avait pris en otage 22 joueurs, leur coach et tout leur encadrement pour les mettre devant soi comme ça et dire maintenant vous allez donc incarner cette France exemplaire, cette France métissée, cette France qui gagne, sauf que derrière il ne s'est rien passé, c'est même l'inverse qui s'est produit parce que ce mythe a duré en gros 2 ans parce que l'équipe pendant 2 ans a été exceptionnelle, c'était probablement l'une des plus grandes équipes du monde à ce moment-là jusqu'en 2000 et puis à un moment on a levé le voile comme ça au bout de 2 ans et la réalité nous est sautée au visage. Mais vous savez, c'est un peu comme quand vous faites une fête formidable chez vous et le lendemain matin vous constatez le désastre que ça a produit. Eh bien, c'est un peu ce qui s'est malheureusement passé avec l'instrument, pas avec l'équipe de 98 en tant que telle, mais l'instrumentalisation qu'on en a fait derrière.
Oui, ce qui n'empêche pas Lilian Thuram ce matin sur France Inter, par exemple, de dire qu'il y avait quand même, ça n'a pas servi à rien, ça a légitimé certaines questions, ça a mis un certain nombre, ça a permis à un certain nombre de Français d'accepter le fait tout simplement que leur pays avait cette dimension multiculturelle, multireligieuse. Mais c'est vrai, Bernard Chambas, parce que, encore l'historien Pape Ndiaye dans Le Monde de ce soir dit « N'attendons pas de la victoire qu'elle change la société ». Il y avait peut-être cette illusion-là en 98.
En ce sens-là, Nathalie, tu as fait raison. C'est-à-dire que c'est les choses à l'envers. On met les choses sont prises à l'envers. Je dirais pas que c'est un mensonge. Je dirais plus un mélange d'instrumentalisation et d'illusion relativement impardonnable. Après, si on replace ça dans un contexte historique, c'est pas compliqué. Chirac est élu en 95 sur la fracture sociale, à la surprise générale. En 97, ça tourne court. Il y a la cohabitation. Et c'est dans ce contexte, finalement, chacun espère s'en sortir sur cette voie-là. Et ça, il est évident que c'est une impasse. Et c'est une impasse qui va se terminer dans les banlieues, dans les transformateurs électriques. On sait comment ça a été. Maintenant.
Et avant, Bernard, mais dans les urnes.
En 2002. 2002. Oui, exactement. L'un étant peut-être la conséquence aussi de l'autre. Cela dit, il faut essayer de voir les choses des deux côtés, de manière, sans prétention, un peu dialectique. Il y a certainement eu des bons côtés de 98, je veux dire, des bons côtés de cet aspect de 98. Et il y en a un qui m'apparaît, c'est un mot que je n'aime pas, qui a été justement beaucoup utilisé, mais qui est simple à comprendre, c'est le mot de beurette. C'est-à-dire, malgré tout, je pense que 98 a été un coup d'accélérateur pour l'affirmation de jeunes filles d'origine arabe à travers le sport, et pour, peut-être, Nathalie dira mieux que moi, mais ça a peut-être été un élément déclencheur du développement du foot féminin.
Paul Dietschy, on reviendra sur le foot féminin, mais je voulais quand même vous entendre sur cette illusion 98 et cette idée de la France Black Blanc Beurre et de ce qui peut en rester aujourd'hui.
Alors d'abord, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est un événement totalement invraisemblable, la victoire en 98. Personne n'imaginait que la France pouvait gagner la Coupe du Monde. Donc ça a libéré toute une série de discours tout à fait invraisemblables. Rappelez-vous que Charles Pasqua, dans une interview au Monde, proposait la régularisation des sans-papiers, des clandestins, pour service rendu, en quelque sorte, à la nation. Donc je pense qu'il y a eu aussi cet effet, tout d'un coup, de quelque chose, d'une divine surprise, qui arrive et qui libère finalement des discours totalement généreux de la part de gens finalement qui étaient peu habitués à les faire. Donc il y a évidemment une part d'instrumentalisation. On se rappelle la course entre Lionel Jospin et Jacques Chirac pour arriver au vestiaire des Bleus. C'est un moment aussi, il faut se rappeler quand même que la croissance repart un petit peu à ce moment-là, en 98. C'est le boom notamment de la téléphonie mobile. Il y a l'idée qu'un cycle de croissance va revenir. Donc il y a aussi un certain optimisme qui réapparaît pendant 2-3 ans. Et puis qui est arrêté évidemment, sur le plan sportif, il y a le match France-Algérie. Et puis évidemment, il y a les émeutes de 2005. Mais ce qu'on peut rappeler aussi, c'est que il y a un changement de statut du football en 98. Jusque-là, le football, c'est le football Black Blamber. Clairement, depuis les années 30, l'équipe de France accueille des joueurs noirs, des 31, puis d'origine maghrébine. Donc le foot a toujours été finalement le porteur des classes populaires et aussi d'une France métissée. Ce qui change en 98, c'est que jusque-là, le foot, c'est l'affaire des spécialistes. À partir de 98, c'est l'affaire de tout le monde, de la classe politique, des femmes, de gens de tous milieux sociaux et générationnels, ce qui fait que, évidemment, les mythes peuvent s'inscrire encore plus dans ce contexte-là.
Nathalie Gnanetta, et même avant d'accueillir les immigrés du Maghreb ou d'Afrique, il y avait les immigrés polonais, Coppa, ouais, évidemment, les immigrés italiens, Platini.
Non, mais Paul a raison. Le foot a toujours été le sport où il y avait la plus grande mixité, parce que c'est le sport le moins cher, parce que c'est le sport le plus accessible, parce qu'on peut le pratiquer dans la rue, et c'est la force de ce sport, c'est parce qu'il est universel. On peut jouer partout au football. Donc voilà, et on joue au pied des cités, quelles que soient les générations. Mais c'est ce qu'on en a fait d'un seul coup. Il est devenu un objet politique, un objet culturel. Il y a eu des espèces de coming out incroyables de grands intellectuels qui ont enfin assumé qu'ils aimaient le football alors qu'avant c'était mal vu, et que des gens comme Bernard étaient très, très précurseurs là-dedans. À part Albert Camus, peu de gens avaient fait état de leur amour fou pour ce sport-là, parce que on est un pays d'intellectuels, donc le foot vraiment c'était pas très classe. Et peut-être que d'ailleurs, toute cette population qui est arrivée derrière a fait aussi d'une certaine manière un peu de mal au football, parce qu'elle a voulu s'en emparer. Et quand on n'a pas les codes, c'est comme un peu dans tous les domaines, c'est difficile de viser juste. Et peut-être que tout ça nous a un tout petit peu détourné de l'objet réel de 98.
Bernard Chambaz.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, c'est pas en termes de codes, c'est en termes, moi je pense qu'il y avait une part d'insincérité dans ceux qui sont parlons des intellectuels, France Culture, enfin des gens du monde de la culture qui se sont un peu ébaubis sur le football à ce moment-là. Et je vois, moi, vraiment en 98 un vrai tournant. C'est-à-dire que, en tout cas pour moi, dans mon propre cœur, mais ça n'en regarde que moi, quelque chose s'est cassé.
Je suis d'accord.
Le football que j'ai tellement passionnément aimé depuis que j'ai vu la demi-finale, va faire pleurer du monde dans les chaumières, mais j'ai vu la demi-finale de 58 entre la France et la Suède à la télévision. Beaucoup d'entre nous disent ça. C'est-à-dire, on voyait un match, deux matchs par an, on les voyait en noir et blanc, il n'y avait pas de ce qu'on appelle de replay, donc il y avait encore moins de VAR.
L'arbitrage vidéo.
Voilà, il y avait une poésie. Et moi, je crois, et si je rends un hommage, ce sera une touche de nostalgie supplémentaire, surtout venant de ma part, mais à Chirac, et à vous, là, en l'occurrence, en commençant votre émission, c'est que vous mettez dans le mille, c'est-à-dire que le fond de l'histoire du foot, du ballon, c'est le rapport à l'enfance. Mmh. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui la seule raison qui puisse me réjouir profondément dans l'hypothèse de la victoire de la France dimanche.
D'habitude, c'est un débat, mais là, on est d'accord. Moi, je dois le reconnaître, en 98, j'étais extrêmement jalouse qu'on me vole mon football. Que tous ces gens dans les stades... J'ai eu du mal, hein, je le reconnais, à accepter qu'en fait, c'était génial qu'on le partage plus encore. Ça m'a pris un tout petit peu de temps, parce que moi je viens d'une famille où le foot est vraiment très très important. En Italie, la mixité dans le foot, elle est plus évidente et elle est beaucoup plus naturelle, on va dire. Et c'est vrai qu'en 98, à la rentrée de 98, en septembre, ces stades qui étaient pleins, etc., je me disais, mais d'où ils sortent ces gens? Ils n'étaient pas là il y a deux mois. Et c'est vrai qu'on s'est senti un tout petit peu dépossédé. Mais, là où Bernard, et je suis aussi d'accord avec lui, a raison, c'est parce que nous avons tous à un moment donné, un match qui nous a fait tomber amoureux fou quand nous étions enfants. Bernard, c'est 58, moi évidemment c'est 82. Et ces matchs-là changent toute notre vie. Les mômes-là, qui sont dans la rue, qui attendent cette finale demain, ils en ont vu, ils en voient beaucoup plus que nous, évidemment, des matchs, ils en voient toutes les semaines. Mais ils n'ont pas ce truc à eux de cette génération. Et c'est pour ça que j'espère vraiment qu'ils vont gagner dimanche.
Vous avez de la chance, parce que moi je suis né en 1980, alors j'ai dû attendre très très longtemps avant. J'ai quand même eu la Coupe d'Europe de l'OM qui m'a fait vibrer au début des années 90.
Mais vous 90, avez perdu 93, en 2006, 94. Et ça marque quand on a 16 ans.
En 2006 j'avais 26 ans quand
même. Ah pardon, 26,
non,
80, pardon.
Oui, je suis né en 80 quand même. Paul Dietschy, oui, c'est ça.
Non, mais on vibre aussi dans les défaites.
On vibre aussi dans les défaites, tout à fait. Paul Dietschy, sur ce qui vient d'être dit et qui est quand même assez intéressant sur ce basculement en 98, de la façon dont est considéré le foot en France, la France dont on dit souvent que c'est pas tout à fait un pays de football.
Oui, c'est clair. Moi, j'ai vécu en Italie, donc je peux faire évidemment la différence. C'est pas un pays de football. Pour quelles raisons? D'abord, il y a des concurrents au football. Il y a le rugby, le cyclisme pendant très longtemps. Il y a un aspect, me semble-t-il, qui est aussi important, c'est que la France est un pays très centralisé, dans lequel finalement les identités locales ont été fortement réduites. Et c'est l'un des finalement l'une des raisons du succès, notamment du football en Espagne, en Italie. Il y a aussi des discours. Alors, le discours de Bernard sur, justement, le foot, c'était mieux avant. Alors, je caricature un peu. On le trouve dès les années 20, dès les années 30. Hein, lorsque vous consultez la presse, le football, c'est déjà quelque chose. L'âge d'or est passé. Mais le football en France a fait l'objet d'attaques toujours répétées. Hein. C'était vraiment le sport par rapport auquel on se définissait, mais aussi qu'on ne voulait pas être. Dans les années 60, par exemple, le pouvoir gaullien préfère nettement le rugby. Hein, il y a tout ce mythe du rugby en France qui a joué. Le rugby, c'est forcément un sport amateur, c'est un sport propre, c'est le sport de nos régions, hein, c'est la France, des campagnes, des clochers, etc. Alors que le foot, évidemment, c'est le sport des villes, de l'industrie, de l'immigration. Alors, je caricature un petit peu, mais c'est quelque chose, évidemment, qui a joué dans le désintérêt relatif pour le football. Et puis, il y a aussi un aspect qui est important, c'est que pendant très longtemps, l'équipe de France a été écrasée. Hein. En 1927, l'équipe de France avait perdu 13 buts à 1 face à la Hongrie. Il faut attendre 58 pour qu'enfin on ait une équipe qui commence à tenir la route. Donc évidemment, la passion pour le football a été un petit peu plus lente à être mise en place. Et moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que on parle beaucoup de cette passion nationale, etc., mais c'est surtout d'abord une passion commerciale. La nation du foot, on la voit au supermarché, on l'entend dans les publicités. Donc, c'est d'abord, finalement, une nation sportive en tête de gondole, plus peut-être qu'une passion qu'on peut ressentir dans d'autres pays européens.
Alors, avant d'en arriver à ce point important, hein, de l'argent dans le football, c'est évidemment une question qu'il faut poser. Continuons un tout petit peu à égrener l'histoire de cette équipe de France et une histoire plus récente qui marque aussi l'évolution de la société française. Je pense évidemment, Nathalie Gnanetta, à la Coupe du Monde 2010, Afrique du Sud, ce qu'on a appelé l'affaire du bus, la grève des joueurs, Knysna, enfin, il y a plusieurs façons de désigner ce moment où, après une de l'équipe racontant comment Nicolas Anelka, alors bad boy de l'équipe de France, aurait insulté le sélectionneur, qui est d'ailleurs Raymond Domenech, revenu un tout petit peu sur les propos récemment, mais, oui. mais passons, ou peut-être revenons-y si vous le voulez. Ça a déclenché une réaction médiatico-politique absolument démente jusqu'à l'Assemblée nationale, où la ministre des Sports,
jusqu'à l'Élysée,
Roselyne, oui, on dit que Nicolas Sarkozy a appelé Roselyne Bachelot, ministre des Sports, pour dire tu vas les engueuler dans le vestiaire. Roselyne Bachelot va à l'Assemblée nationale et parle d'une équipe de France où des caïds immatures commandent à des gamins apeurés. Et là, on voit que 2005, les émeutes sont passées par là, que le Karcher de Nicolas Sarkozy est passé par là, et même peut-être que les attentats de 2001 sont passés par là.
Ces jeunes-là, ou ceux qui sont dans l'équipe, les moins jeunes aussi d'ailleurs, parce que certains, enfin un seul était Anaïsna, c'est Hugo Lloris. Oui. C'est les enfants de 2010, c'est pas les enfants de 98. L'héritage qu'ils portent sur leurs épaules, c'est celui-là. Ils étaient en U10, U13, U15 à peu près, si on calcule bien les âges, lorsque s'est produit je ne sais même pas comment qualifier ce jour, qui était un jour incroyable, parce que c'est vrai qu'on était tous totalement sidérés par ce qui se passait dans ce bus et sur ce terrain de Naïsna. Eux, ben, ils sont restés dans le football, parce que à ce moment-là, vous savez, il y a beaucoup de parents qui ont retiré leurs enfants du football.
Il y a eu une chute des licences
incroyable, parce que voilà, c'était un sport de racaille, c'était un sport de voyou, c'était un sport où on se respecte pas. Et eux, ils sont restés avec leur maillot, ils sont allés à l'entraînement, ils ont tenu pour une seule raison, parce qu'ils aiment ce sport plus que tout. Mais ils ont appris de ça. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de problème de la Marseillaise, pas la Marseillaise? Pourquoi ils disent tous avec une sincérité qu'on ne peut pas leur enlever? On veut rendre la France heureux, on est fiers d'être français, on est fiers de voir les images dans Paris, dans Marseille, dans Lyon, etc. Parce qu'ils ont, ils sont les enfants de ce truc hallucinant qui s'est produit et qui n'aurait jamais dû prendre toutes ces proportions, mais qui les a prises parce que nous étions tous totalement sidérés par ce qui se passait.
Bernard Chambaz, vous vous souvenez évidemment de cet épisode.
Oui, je m'en souviens. Moi, je pense que c'est lié à la surmédiatisation. Mmh. Qui est le fruit de 98.
Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une époque, il y a aussi un moment. C'est-à-dire que 2010, vous disiez tout à l'heure pour 98, on a un moment de croissance économique. 2010, on est juste après la crise de 2007-2008. Et je le rappelais, il y a aussi la question de l'identité qui est montée fortement lors de l'élection présidentielle de 2007. C'est quand même un contexte politico-économique qui est fort différent.
Dans lequel ça éclate, mais ça éclate à mes yeux sur fond de surmédiatisation. C'était je rassure Paul que le foot c'était mieux avant. Je pense que c'est toujours aussi bien différemment à tous les temps, en tout cas sur le pré. Mais là, c'est-à-dire l'idée de suivre, c'est-à-dire dans la tête même des joueurs pour essayer de comprendre ce qu'a été la conscience de ces jeunes hommes, quoi qu'on puisse en penser, le fait que maintenant la presse suit les autocars, suit les sorties de vestiaire, on allait à une espèce de catastrophe footballistique, on l'a fabriquée à tous les étages, on l'a eu. Après, faut pas réduire. Moi, il y a un joueur que j'aimais beaucoup. Qui a été détruit par cette histoire et qui est tout sauf de la racaille, ça veut rien dire, hein, bien sûr, mais c'est pas celui en qui on verrait une racaille, c'est Toulalan.
Jérémy Toulalan,
ils ont tous été excessivement affectés par ce moment, vraiment pas que Jérémy Toulalan. Lui, bien sûr, ça l'a profondément, ça a arrêté sa carrière d'une certaine
manière. Sa carrière internationale, c'était un honnête garçon. Après, on en a fait de Krishna des tonnes et des tonnes, mais on a raison aujourd'hui, évidemment, d'y voir un révélateur.
France Culture, du grain à moudre. Raphaël Bourgois.
Comment la France rêve à travers le football? C'est la question du grain à moudre d'été ce soir avec Nathalie Yanetta, qui est aujourd'hui directrice associée de l'agence de communication 2017, mais qui a longtemps été journaliste sportive et même conseillère au sport et à la jeunesse du président François Hollande. Bernard Chambaz, romancier et passionné de sport. Et vous jouez quel poste d'ailleurs dans l'équipe de France des écrivains?
J'essaye de jouer milieu de terrain.
Milieu de terrain de l'équipe de France.
Plus Paul Pogba ou plus N'Golo Kanté?
Je suis le Kanté blanc, le vieux Kanté. Quand t'es blanc.
Alors,
il n'avance plus.
Paul Dietschy dit qu'il a vu jouer Bernard Chambaz et qu'apparemment il s'en sort pas si mal.
J'ai joué avec lui une fois.
Merci Paul.
C'est un grand footballeur en même temps qu'un grand cycliste. Donc,
professeur
des arcs.
Professeur d'histoire contemporaine, oui. Paul Dietschy, je ne vous ai pas encore représenté, donc je m'y emploie. Et puis je vais vous laisser la parole parce qu'on ne vous a pas encore entendu sur cette question de 2010. Mais j'aimerais avancer un petit peu justement sur ce qui a découlé de tout ça. Ça a été dit. On a aujourd'hui une génération qui n'hésite pas à dire son amour de la patrie, être là pour défendre l'équipe de France, et on a le sentiment en effet que ceci est lié à cela, c'est-à-dire que peut-être aujourd'hui il y a un patriotisme dans le football qui est peut-être plus accepté qu'il ne pouvait l'être par le passé. Est-ce que je me trompe,
Paul Dietschy? Oui, alors dans le passé il y a déjà eu des scandales comme ça, on a souvent la mémoire courte. En 1978, lors de la Coupe du Monde en Argentine, les joueurs avaient fait la grève pour des questions de chaussures, de sponsors, etc. Et la médiatisation était sans doute moins importante qu'aujourd'hui, mais ça avait fait scandale. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau et donc qui vient alimenter cette réprobation des mœurs du football. Pour 2010, bon, je suis d'accord très largement avec Bernard sur la question de la médiatisation. Ce qui s'est passé aussi, c'est que les footballeurs de 2010, ils sont un petit peu révoltés, je pense, contre un encadrement qu'ils jugeaient peut-être pas professionnel, un sélectionneur qu'ils ne jugeaient plus suffisamment compétent. Tout ça, ça a été repris en main. Et derrière le discours patriotique, il faut voir quand même un homme qui est Philippe Tournon, qui est quelqu'un de tout à fait extraordinaire, qui est l'attaché de presse de Didier Deschamps, et qui donne les éléments de langage. Je pense que dans toute cette ferveur patriotique, Pogba qui dit qu'il veut faire péter la France, je sais pas ce que ça veut dire, Griezmann qui dit qu'il vit, enfin la France est un pays formidable, même s'il n'y vit pas ou il n'y vit plus depuis une quinzaine d'années. Derrière tout cela, il y a quand même une habileté médiatique, des éléments de langage que les joueurs vont interpréter avec, évidemment, leurs propres mots à eux. Ça ne veut pas dire qu'ils n'y croient pas, mais il y a quand même une opération de communication qui va avec, évidemment, un progrès très important dans le jeu, avec une reprise en main beaucoup plus professionnelle de
la communication,
de l'équipe de France.
Nathalie Iannetta.
C'est clair, oui.
Nathalie Iannetta, vous vouliez réagir justement, vous êtes celle qui est la plus confrontée, on va dire, à ces éléments de langage qui sont maintenant passés aux joueurs de l'équipe de France.
C'est rare, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec Paul sur les éléments de langage. Et alors, sur Philippe Tournoncy, bien sûr, d'ailleurs, il va être peut-être lui aussi double champion du monde avec Didier Deschamps, ce sera l'un des rares, l'un des seuls, tous les deux, parce qu'il était là en 98 et il termine dimanche, quoi qu'il arrive. À son poste. Ces jeunes-là, sur leur attachement patriotique, il se trouve que j'ai vécu avec eux quelque chose de très particulier, qui sont les attentats au Stade de France le 13 novembre. Et que nous les avons vus à ce moment-là, d'abord comme tous les Français, totalement sidérés par ce qui se passait dans les rues de Paris, profondément choqués, et qu'ils sont ensuite allés jouer, 4 jours plus tard, en Angleterre. On se souvient tous de Wembley, de cette Marseillaise, de ce bleu-blanc-rouge. Ce moment-là, pour eux, a été un moment extrêmement fondateur dans leur attachement à leur pays. Et ils ont senti le regard des autres pays, de leurs coéquipiers, avec lesquels ils jouent toutes les semaines, en Angleterre, en Italie, en Espagne, en Allemagne, être... vraiment les regarder non pas comme des footballeurs, mais comme des Français. Ils ont compris ce que ça voulait dire à ce moment-là dans les yeux des autres, d'être Français, d'être attaqué parce qu'on est festif, parce qu'on est heureux, parce qu'on fait, on est la culture, parce qu'on est la liberté. Donc ça, vraiment, ça a été un avant et un après. C'est une des raisons pour lesquelles on les a vus, effectivement, tout au long de l'année 2016, changer leur rapport à la société française et être à ce point déçu, pas seulement de la défaite, d'une défaite de quand on est un grand champion, on ne peut pas perdre
donc
en finale.
Donc la défaite en finale de la Coupe d'Europe contre le Portugal en France en 2016.
Ils avaient compris que là, ce soir-là, ils avaient perdu un peu plus que ça.
Mais alors si on sort de cette question du patriotisme...
Et après, pardon, pour terminer sur la communication et les éléments de langage, il se trouve qu'ils n'ont plus besoin des journalistes depuis très longtemps. Ils n'ont plus besoin d'attachés de presse depuis très longtemps. Ils ont une relation tout à fait directe avec leur public.
Avec les nouveaux réseaux sociaux,
bien
évidemment.
Sûr, c'est Insta, c'est les stories, c'est Twitter. Et c'est là où ils sont bons. C'est qu'ils viennent de créer un réseau immense, directement, du producteur au consommateur, avec leurs fans. Et ça, franchement... ils sont super doués.
Oui, enfin, on a quand même, si on reprend cette question des éléments de langage, par exemple, on était frappé à la fin du match France-Belgique par la mise en avant du collectif systématiquement. On mettrait N'Golo Kanté à part parce que lui dit c'est toujours ça,
façon,
c'est
oui,
toujours
il,
comme ça. Mais pour d'autres, par exemple Paul Pogba, qu'on sait un peu plus individualiste.
Voilà, c'est pas vrai. Paul Pogba n'est pas un individualiste. Paul Pogba est une individualité très forte qu'on veut faire
c'est
rentrer
une image, c'est une
dans
image
une case. Et qu'il n'y rentrera pas parce qu'il a une personnalité hors norme. Mais non, c'est un des garçons qui est le plus attaché à l'équipe, au partage et au football. Vraiment.
Dont acte, Nathalie Iannetta. Pardon d'avoir attaqué Paul Pogba ici.
Je suis l'avocat.
Oui, je vois ça,
je
vois ça. Ça tombe bien, moi je suis l'avocat d'Olivier Giroud, alors vous voyez ce que ça m'apporte aujourd'hui.
Ils en ont tous besoin.
Voilà, ils en ont tous besoin. Mais Bernard Chan, je vais quand même vous entendre sur ces questions des éléments de langage, peut-être, et justement sur cette question du collectif, parce que dans un sport où aujourd'hui on voit émerger des individualités aussi par le biais de l'argent, de la logique des transferts mirobolants, les stars, évidemment, le ballon d'or, ça existe depuis longtemps, évidemment, le ballon d'or France Football, mais malgré tout, on a posé encore la question à Kylian Mbappé qui a à peine 19 ans, pas plus tard que l'autre jour à la fin du match. Bref, ces éléments de langage dans une société qui valorise tellement l'individu, on a l'impression qu'on a un football en décalage tout simplement qui met en avant le collectif.
Oui, non, mais je crois à une sincérité du collectif, encore que, et je crois aussi à la pesanteur increvable de l'individualisme. Et on a vu, là maintenant, tout se passe bien, donc c'est impeccable. Mais on a vu aussi les espèces de bisbilles il y a une semaine entre Loris, Kanté, Pogba, Mbappé, Pogba, Griezmann, c'est-à-dire et on voit que
qui sont les cadres quand même de cette
Mbappé,
équipe.
Ouais, un cadre de 19 ans, Mbappé, oui. Une personnalité en plus exceptionnelle. Et lui, je crois qu'il n'y a pas besoin d'éléments de langage. Il a une tête, ça qui me frappe. Il a une tête bien faite. Il parle avec beaucoup de lucidité. Après, on apprécie ou on n'apprécie pas, ça c'est encore autre chose. Après, moi, ce qui m'a frappé dans l'exemple que Nathalie prenait sur le match de Wembley. Au-delà, moi, je suis entièrement d'accord, mais ce qui me frappe davantage encore, c'est qui, moi, me touche et m'émeut, plus encore, c'est l'apparition du cosmopolitisme, enfin d'une espèce d'internationalisme, de solidarité. C'est-à-dire, ce qui est bouleversant, c'est les Anglais qui applaudissent les Français, et qui applaudissent les Français dans le contexte qui est celui du Bataclan et du Stade de France. Et ça que je trouve très beau, et Nathalie saura mieux que moi se rappeler, j'avais été très ému aussi de voir, est-ce que c'était Italie-Suède,
oui,
ou
ce
Buffon,
que j'allais dire.
Pour contrer les sifflets du public.
C'était France-Italie pour le coup.
Ah, c'était France-Italie.
La Marseillaise était sifflée, il s'est mis à l'applaudir.
Voilà,
mais surtout,
Chauvin,
ce fameux week-end-là où tous les pays européens jouaient des matchs de préparation, des matchs amicaux, post-attentat, on a joué la Marseillaise sur tous les terrains d'Europe, quelles que soient les confrontations. Et ça, c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'eux se sont dit mais en fait, la force et la puissance de ce pays, parce que c'est vrai, vous avez raison, Paul l'a répété, pour beaucoup, ils vivent à l'étranger depuis longtemps. Et alors, d'un seul coup, ils se sont probablement souvenus qu'ils avaient un pays peut-être d'adoption dans lequel ils étaient très heureux, pourquoi pas. Et on a beaucoup parlé de ça à travers Thierry Henry cette semaine, par exemple.
Qui était
l'entraîneur
assistant de la Belgique.
Oui, c'était le sélectionneur adjoint.
Oui, alors, sélectionneur adjoint. Je ne sais pas d'où ça sort, mais le truc assez génial.
Il faudrait qu'on entende Paul Dietschy, le pauvre, il n'est pas là, alors on a tendance à
l'entendre.
C'était le liberté, mais je passe la parole à Paul, c'était sur le liberté, égalité, Mbappé.
Oui.
Paul Dietschy, est-ce qu'on est le seul en France à vouloir absolument faire du foot un reflet comme ça de notre société, à y accrocher tellement d'importance? Ça vient d'être dit encore à l'instant, je veux dire d'un point de vue de représentation nationale.
Par rapport à d'autres pays, vous voulez
évidemment
dire. Oui. Alors, pour la France, je pense que c'est une habitude de toujours intellectualiser ce qui peut sembler a priori trivial. Donc, c'est une habitude certainement qui est très française. Mais il est clair, si on prend évidemment le cas de l'Espagne, de l'Italie, le football est évidemment le reflet de mythologie nationale, des rivalités entre les régions. Hein, donc,
oui, on l'a vu avec Piqué, par exemple. Le défenseur du Barça au moment de l'indépendance de la Catalogne, la question de savoir s'il devait jouer encore en équipe nationale.
C'est tout à fait clair. Et puis, en Italie, évidemment, au travers du football, il y a tous les maux de la société italienne aussi, qui sont les matchs truqués, l'importance de la mafia. Vous avez quand même, en Italie, un président du conseil dont le parti s'appelait Forza Italia. C'est comme si, en France, vous aviez un parti qui s'appelait Allez les Bleus. Hein. Donc,
accessoirement, avait possédé un club, le club du Milan AC.
Tout à fait. En Allemagne, une des grandes questions qui est posée actuellement, c'est la question des joueurs turcs qui ont été salués Erdogan, etc. Donc on retrouve un petit peu finalement, au travers du football, des questionnements qui étaient apparus en France en 2010. Donc nous ne sommes pas du tout les seuls finalement à essayer de lire la société au travers de notre équipe de football.
Nathalie Yanetta.
Sur la question des joueurs turcs, donc de Gundogan et d'Özil, dont parle Paul dans l'équipe d'Allemagne, on se souvient donc de cette photo, ils ont posé avec Erdogan, merci à notre président, ont-ils écrit. Normalement, dans un pays comme l'Allemagne, ce truc, après une conférence de presse, est éteint, terminé, rideau quoi. Là, ça a pris des proportions, effectivement, hallucinantes, dans la presse, dans la classe politique. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a un tout petit peu alertée, je me suis dit, en fait, ce pays va pas ultra bien. Et ce football, il y a quelque chose qui semble s'être... Alors, je n'avais pas prévu l'élimination au premier tour de l'Allemagne, je le confesse. Mais
j'aurais bien été la seule.
Il y avait quelque chose qui semblait effectivement ne plus tourner rond comme le ballon tourneront normalement dans ce pays qui dissocie très très bien les deux. Et là, vraiment, cette question turque a surgi dans l'espace public allemand de manière totalement hallucinante.
On voit, Bernard Chambas, finalement, que le foot, c'est pas tant un reflet de la société que le lieu de la projection de tous nos fantasmes et de la société. Enfin, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le voir.
Oui, aussi, mais ouais, ça me fait penser aussi, c'est pas pour taquiner Nathalie, mais ça m'a fait rire. J'ai vu avant-hier l'annonce. La finale de la Coupe du Monde, après la victoire de la Croatie, la finale de la Coupe du Monde opposera donc la France à la Croatie dimanche à 17h sur TF1. Je trouve ça extraordinaire, parce que la finale, elle a lieu au stade Loujniki à Moscou. Oui. On peut la voir sur TF1, mais cette espèce de raccourci, je trouve, symbolise extraordinairement ce qui est en train de se passer.
On s'approprie tout ça, mais je vous rassure, beIN Sport se dit que c'est aussi sur beIN. Et quand j'étais sur Canal, on disait que c'était sur Canal.
C'est une façon de dire les choses.
On s'approprie l'événement pour en être le dépositaire, c'est vrai.
J'entends par là le média, quel qu'il soit.
Puisque vous citez beIN, on n'a plus beaucoup de temps, Nathalie Yaneta, mais la prochaine Coupe du Monde, elle est au Qatar. Ça montre aussi un changement du contexte de la géopolitique du foot. On ne va pas la faire en deux minutes, mais sur ce pays, évidemment, qui a acheté le PSG, enfin pas le pays, mais voilà, presque le pays qui a acheté le PSG, cette Coupe du Monde qui s'y rendra, qui a lancé beIN, qui avait les seules chaînes à diffuser l'intégralité de la Coupe du Monde. Qu'est-ce que ça dit aussi de l'évolution de ce sport, de ce que, enfin voilà, puis on se projette dans le monde à travers le football.
Une minute, ça va être compliqué, mais je pense que ce sera une réelle révolution. D'abord parce que géopolitiquement, on est en train de changer de continent et ce sera la première fois que c'est un petit pays qu'il n'y a pas de culture foot très forte localement. Et puis, parce que vous l'avez dit, ça sera en hiver. Et ça va donc venir percuter nos petits calendriers de nos grandes nations européennes avec des grands championnats. Va falloir qu'on s'arrête, il va falloir qu'on s'adapte. Et quand ils vont préparer leur calendrier, là, la Ligue 1, la Bundesliga, la Première Ligue, la Serie A et la Liga, ils ne l'ont pas encore fait. Hein. Quand ils vont vraiment devoir le faire, ils vont mesurer à quel point on va avoir changé d'échelle. Est-ce que ce sera quelque chose de positif ou quelque chose de définitivement négatif? Ça, on le saura dans 4 ans.
On le saura dans 4 ans. Un dernier mot, Paul Dietschy. Je vous demande de faire court. Vous êtes loin, vous n'allez pas me voir si je vous fais des signes, mais sur ce changement géostratégique, on va dire.
Oui, moi je trouve que je vais plaider pour le Qatar dans le sens où ça va dans le sens de la mission de la FIFA. La FIFA avait dans ses statuts initiaux le but de développer le football international. Il n'y a pas de raison que le Moyen-Orient n'accueille pas de Coupe du Monde. Peut-être qu'il aurait fallu élargir à d'autres pays, mais il me semble que ça montre autre chose. La vraie réalité du football aujourd'hui, c'est plus la pelouse, c'est l'écran de télévision. Donc que la Coupe du Monde ait lieu à Doha ou ailleurs, c'est la même chose. La manière dont finalement nous vivons la Coupe du Monde, c'est d'abord devant un petit ou un grand écran. Et ça, c'est la réalité aujourd'hui du football.
Et ils seront probablement plus de 3 milliards. On sera plus de 3 milliards. Enfin, peut-être que certains ici seront au stade en Russie. En tout cas, moi, je serai derrière ou devant mon poste de télévision. Merci beaucoup, Nathalie, Yaneta, Bernard Chambaz et Paul Dietschy d'avoir participé à cette émission. Une fois n'est pas coutume, on a donc parlé football sur France Culture. Le Grain à Moudre d'été, c'est terminé. Cette émission a été préparée avec Leïla Saïdi, Camille Ferré, Céline Leclerc et Marine Lerouge. À la réalisation, c'était Vanessa Nadja, et à la prise de son, Élise Le.